Il est 13h à Bangui et c'est l'heure de la grande édition de la mi-journée, une présentation de Martial Steve Mbetisinga. Bonjour Martial.
Bonjour Ursula Merveille Mivala, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation CVGRR entend tenir sa première audience publique cette année. C'est ce qui ressort d'une discussion avec les bailleurs cette semaine à Bangui. Décédé mardi dernier, l'inhumation de Sira Gonda est prévue aujourd'hui. Nous revenons dans ce journal sur son parcours politique. L'énergie centrafricaine augmente la capacité en électricité. Elle vient de rendre opérationnelle la centrale solaire de Sakai qui fournit 15 MW. Football, réaction de Raoul Savoie, le sélectionneur de l'équipe nationale centrafricaine. Le pays s'approche d'une première qualification à la CAN après sa double victoire face à Madagascar.
À la une de cette édition, un an après son opéralisation, la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation CVJRR entend tenir sa première audience publique cette année.
C'est la principale résolution de la table ronde qu'elle a organisée avec l'appui du PNUD durant 3 jours à Bangui. 5 priorités stratégiques sont définies pour atteindre cet objectif. Mais des défis restent à relever. Un papier de Ondia Villabisayo rendu par Astrid de Bonheur Kolingi.
Durant 3 jours, la centaine d'acteurs et partenaires de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation ont débattu des stratégies d'intervention et du plan opérationnel, mais surtout des principales priorités de la CVJRR. On note par exemple la sécurité des personnes et des bases de données, l'indépendance financière, la problématique de tenir le délai, le problème des ressources humaines et l'indépendance face aux politiques. Maître Marie-Édith Douzima, présidente de la CVJRR.
Les dépositions que nous allons recueillir, il faut les protéger. Nous envisageons organiser une audience cette année. Je ne peux pas vous indiquer une date, mais tout dépend des déclarations, des dépositions que nous allons recueillir. Et ces dépositions dépendent aussi de la sécurité et de tout ce qu'il faut.
Ces échanges ont vu l'apport des experts qui ont fait des propositions qui, selon eux, sont utiles pour un bon résultat. Escher Okwevi et Kloué Vanou, chargé des droits de l'homme au bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme.
Qu'il était extrêmement important pour la commission de pouvoir travailler en faisant de la centralité des victimes un axe important. Ces pistes de solutions qui ont été proposées, ce sont des pistes qui sont expérimentées de part et d'autre. Mais il faudra que la commission s'en inspire tout en tenant compte de la spécificité de la Centrafrique.
Malgré l'appui multiforme du gouvernement et des partenaires techniques et financiers, la CVJRR a de la peine face à la mission qui lui est confiée, celle d'établir la vérité sur les événements qui ont secoué la République centrafricaine de 1959 à 2019.
La ministre des Affaires étrangères s'est entretenue hier avec une délégation du département américain.
Il s'agit de la sous-secrétaire adjointe au bureau des affaires africaines, Amy Holman, et sa suite. Le but de la rencontre est de discuter sur la coopération bilatérale, d'approfondir le partenariat Centrafrique-États-Unis et la coopération diplomatique. Sylvie Baipotemo, ministre des Affaires étrangères, au sortir des échanges au micro de François Koussimi-Palato.
Nous avons eu l'occasion d'assister au sommet des leaders africains à Washington où le président de la République a eu l'occasion d'échanger avec la partie américaine et nous sommes dans justement le processus du renforcement de notre coopération qui est déjà menée par Madame l'ambassadeur des États-Unis ici en République centrafricaine, mais avec justement une volonté de renforcer notre coopération, une volonté de la partie américaine de soutenir les efforts de la partie centrafricaine sur les nombreux défis qui sont les nôtres. Donc nous sommes dans une phase de discussion pour voir comment nous pouvons renforcer et dynamiser notre coopération. Vous savez que les défis de la République africaine sont nombreux. Ce n'est pas lors d'une discussion que nous pouvons étaler les discussions ou les propositions ou les sujets à mettre en œuvre. C'est un long processus et que nous avons démarré déjà en 2022 et que nous poursuivons. Donc la présence de cette délégation en terre centrafricaine est justement la preuve que cette coopération est voulue par les deux parties et elle est justement dans un cadre de travail conjoint et commun pour le bien de nos deux peuples.
Sira Gonda, président du Parti national pour un Centrafrique nouveau, PNCN, sera inhumé aujourd'hui.
Oui, Ursula, décédé le 21 mars des suites d'une maladie, il a su marquer son temps. Nous revenons sur son parcours politique avec vous, Jean-Fernand Kouina.
Sira Gonda était de son vivant un homme de consensus. Fonctionnaire des Nations Unies, il rentre très vite au pays et crée son parti, le PNCN, lequel, parti avec le PDCA de Jean-Serge Wafio, constituera le maillon fort qui soutient le poutiste François Bozizé le long de sa transition puis son élection en 2005. premier ministre d'État à la communication, Sia Gonda a marqué d'une pierre blanche son passage en créant le département des sciences de l'information et de la communication DESIC. Communicant et ouvert à tous, il était au centre de plusieurs dossiers, notamment les discussions avec les rebelles en vue de leur désarmement. L'histoire retiendra sa rencontre avec le chef rebelle Babalade et ses multiples voyages à l'intérieur du pays pour la cause de la paix dans son pays. Son parti, le PNCN, Ali du KNK, n'a pas échappé aux affres des élections de 2011. Le débauchage de ses cadres ainsi que la montée des violences politiques ne font pas l'affaire de l'homme. Le candidat PNCN aux législatives a par exemple été tabassé à Bossangwa. Sia Gonda proteste vivement contre cette violence politique et prend ses distances avec le parti au pouvoir. Mais le froid n'a pas duré. En proie aux difficultés de tout genre, Sia Gonda revient au devant de la scène pour sauver le fauteuil de son parent François Bozizé qui vacille. Il prend le lead de la majorité présidentielle lors du dialogue de Libreville en 2013. Pendant la transition de 2013-2015, certains cadres, à l'exemple de Daniel Nzewe et autres, l'ont quitté. Opposant à Faustin Akonje Touadéra, le PNCN a intégré la COD 2020, opérateur économique. Son choix de l'opposition contraste bien avec ses affaires, d'où nécessité de rallier la majorité. L'opportunité pour le faire était le dialogue républicain. Il a créé sa plateforme politique, l'Union des forces démocratiques de l'opposition UFDO, pour faire des propositions constructives, selon ses mots, au gouvernement. Épuisé par la maladie qui le décime à petit feu, Sia Gonda a rendu l'âme le 21 mars 2023, laissant en héritage une politique chercheuse de consensus en tout et la volonté de dialoguer avec un adversaire politique.
L'énergie centrafricaine Enerqa augmente sa capacité de production de 15 MW.
Oui, c'est grâce à la centrale solaire de Sakai dans le 9e arrondissement de Bangui qui a été inaugurée hier par le président Faustin Akonje Touadéra et Dalo Tindiko y a pris part.
La centrale solaire de Sakai semble être une solution au problème de perturbation d'électricité à Bangui. Avec 15 MW de plus, la capacité de production de l'énergie centrafricaine Enerqa passe à 72 MW. Le président de la République, Faustin Akonje Touadéra, apprécie la réussite des travaux.
Les services énergétiques modernes sont importants pour assurer une qualité de vie satisfaisante aux populations et promouvoir ainsi un développement économique. L'accès à l'énergie est au cœur des questions telles que la sécurité, le changement climatique, la production alimentaire et le renforcement des économies tout en protégeant les écosystèmes. Un accès accru à l'électricité améliore l'éducation, améliore le divertissement, la santé, le confort, et aussi la productivité.
Valérie Ndodesaï Alanza, conseillère à la mairie du 9e arrondissement secteur Sakai et Ngoulékba, appelle la population à protéger les installations de cette centrale solaire.
La population du secteur Sakai est très contente de cet événement. On ne s'attendait pas à ça, mais on en a aujourd'hui. On n'a pas de congélateur, on n'a pas de l'eau fraîche. Alors ça nous dérange beaucoup, mais merci au président de la République pour ce don-là. Je lance un appel à la population pour protéger ce champ solaire pour un développement durable, surtout aux enfants qui lance les pierres pour chercher les oiseaux, là, c'est pas normal.
Pour Georges Marandi, président de la coopérative des riziculteurs de Sakai, c'est déjà un plus pour la population de cette localité.
Cette électricité-là, elle est bienvenue dans notre commune parce que nous, en particulier à Sakai ici, on a besoin de l'électricité pour nos activités, c'est-à-dire pour les activités génératrices de revenus telles que les soudures et les moulins, même les décortiqueuses du paddy. Donc on en a besoin, et même pour alimenter la maison, pour l'éducation de nos enfants aussi.
Les travaux du champ solaire de Sakai ont été lancés en janvier 2020 et ont pris fin en octobre dernier. L'électricité produite par cette centrale solaire va desservir une partie de la commune de Bimbo et une partie sera transférée au poste principal de l'Enerqa au centre-ville.
Et Dalo Tindiko sur Radio Nekeluka.
Les musulmans de Centrafrique poursuivent le jeûne du Ramadan dans un contexte de hausse de prix des produits alimentaires sur le marché.
Pour soulager un peu ceux de Bangui, la fondation Mohamed VI a remis dimanche dernier un paquet composé de nourriture et de produits de première nécessité à quelques-uns. L'appui visait également des non-musulmans. Reportage de Maxime Joël Lalaï.
Au total, 300 bénéficiaires identifiés dans le 10 arrondissement de Bangui ont reçu cet appui composé essentiellement de riz, sucre, farine, huile, spaghettis et de savon. Fawzia Fane, habitante du quartier La Kwanga, une des bénéficiaires.
Je me suis confrontée à des difficultés au début de ce Ramadan. Même pour trouver de la bouillie, c'est compliqué. On est obligé parfois de préparer juste du thé, comme c'est l'œuvre de Dieu qui nous donne la force. Heureusement, aujourd'hui, j'ai eu du riz que je vais préparer accompagné du thé. Et grâce à ça, mes enfants et moi allons clôturer le jeûne. Nous remercions Dieu.
Madeleine Oumissi, une veuve du 17e arrondissement fait partie des non-musulmans identifiés. Elle salue un acte fort de cohésion sociale.
Des choses pareilles pour appuyer les orphelins et les pauvres, c'est vraiment merveilleux. C'est pourquoi je suis heureuse, car c'est un signe de l'unité. Nous voulons la paix et l'unité. Les musulmans et les chrétiens sont tous un.
Imam Salih Ndiaye, membre de la Fondation Mohamed VI, présente l'intérêt de ce geste.
C'est beaucoup plus la fraternité humaine. On a traversé une situation un peu difficile où carrément il y avait les musulmans à part, les autres à part. Alors que nous sommes tous des frères dans ce pays-là. On doit absolument reprendre le vivre ensemble qu'on avait connu à l'époque. C'est très important. Sans ça, on ne peut pas parler de sécurité, on peut parler de paix, on peut parler de développement.
La Fondation Mohamed VI promet d'élargir ses actions caritatives auprès des démunis et des personnes de troisième âge dans toute la communauté.
Entre-temps, Martial, le Ramadan de cette année s'annonce très rude pour les musulmans qui avaient trouvé refuge au Soudan et qui sont de retour à Bria.
Oui, Ursula, beaucoup manquent de moyens financiers et ne savent quoi faire pour passer ce moment de jeûne et prière. Gasmala Mustapha, notre correspondant à Bria, est allé à leur rencontre.
Au quartier Gobolo, Moussa Ousmane et certains de ses voisins, qui sont aussi des musulmans, sont allongés sur des nattes sous un manguier. Ils sont affaiblis non seulement par la chaleur, mais aussi par la soif et la faim. À quelques heures de l'iftar, c'est-à-dire la rupture du ramadan au coucher du soleil, Moussa Ousmane est inquiet.
C'est lorsqu'on va au champ qu'on peut trouver du bois de chauffage pour vendre. Cela nous permet d'acheter du sucre et des arachides pour le potage. Mais si vous sillonnez notre site, vous allez constater que certaines personnes ne boivent que de l'eau après la rupture du ramadan. C'est parce qu'elles n'ont rien à manger.
Oumar Oudidjo s'inquiète aussi de son sort et celui de sa famille pendant cette période de ramadan.
Chez moi, j'ai plusieurs fils et des petits-enfants. Ils sont au nombre de 50. Je n'ai pas d'emploi. Avant, j'avais l'habitude de consommer du lait de vache, mais maintenant que je mange le potage, le goût est amer parce qu'il n'y a pas de sucre. Qu'allons-nous devenir pendant les 30 jours?
Aïssatou Saleh, mère d'une famille de 7 personnes, traverse également un moment difficile. Elle appelle à l'aide.
Nous n'avons rien. Aidez-nous. Si vous nous donnez de l'argent, nous pourrons acheter du sucre, de nourriture et du savon. Regardez, nos habits sont sales. Le fait de jeûner dans cet état n'est pas bien. À défaut de manioc, nous ne mangeons que du riz qui n'est pas consistant.
Ils sont plus de 2700 ces Centrafricains qui vivent dans des conditions déplorables au quartier Gobolo à Bria. Ils avaient quitté le pays à cause des crises sécuritaires pour trouver refuge au Soudan. Après leur retour en avril 2022, ces derniers sont confrontés à de nombreux problèmes malgré l'appui de certaines organisations humanitaires. Bria, Gasmala Mustapha, Radio Ndekeluka.
Claire Assamba Dinga est là et c'est pour la page sport. Claire, bonjour.
Bonjour à vous, Martial Seb Mbetisinga. Bonjour à tous.
La page sport de cette mi-journée reste dominée par le football avec la nouvelle victoire hier des Fous de Bazoubongui face au Baréa.
Effectivement, Martial, match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. C'est une deuxième victoire consécutive contre les Baréa de Madagascar sur le score de 2-0 hier à Douala au Cameroun. La République centrafricaine est désormais deuxième du groupe E avec 7 points. Elle devra sortir le grand jeu face au Ghana et à l'Angola en juin prochain, avec l'espoir de décrocher sa première qualification à une Coupe d'Afrique des Nations.
Sur la deuxième victoire hier contre Madagascar, le sélectionneur des Fauves, Raoul Savoie, réagit.
Oui, il dévoile la stratégie mise en place et pense déjà à la prochaine étape. Nous lui avons contacté hier à Yaoundé au Cameroun.
Bon, déjà, on va savourer ces deux matchs, cette position au classement. Ensuite, comme d'habitude, on va se réunir pour travailler sur la suite, que ce soit avec le staff technique ou évidemment avec la fédération. On ne connaît pas encore le programme exact. On attend les informations de la CAF sur les dates et l'ordre des matchs. Donc on attend maintenant. Et de toute façon, on sait très bien que cette rencontre entre l'Angola sera une rencontre historique où on devra faire le nécessaire pour passer l'épaule et se qualifier pour la première fois pour une CAN senior.
C'était Raoul Savoie, sélectionneur des Fauves de Bazoubongui. Et puis des matchs ont été également joués hier. L'Angola et le Ghana se sont séparés sur un score de parité un but partout. Le Congo-Brazzaville a battu le Soudan du Sud 1-0. Même score en faveur du Nigeria devant la Guinée-Bissau, de l'Algérie face au Niger, puis du Soudan contre le Gabon. Victoire aussi de la Guinée-Conakry sur l'Éthiopie, 3-2.
Merci à vous Claire. Fin de ce journal de la mi-journée sur Radio Ndekeluka. Merci pour votre fidélité de cours. Tout de suite la version Sango de votre journal.